Les protestants sont les enfants de la Réforme. Sa famille et ses descendants sont d'ailleurs riches de déclinaisons aujourd'hui. Il y a les luthériens, les réformés, les méthodistes, les évangéliques, les salutistes et beaucoup d'autres encore. Soit. Mais la Réforme, qu'est-ce que c'est? Et sur quoi les protestants insistent-ils particulièrement? En fait, tout a commencé le 31 octobre 1517, lorsque le moine et théologien allemand Martin Luther a affiché ses 95 thèses contre les indulgences sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Cette date, en effet, a été considérée comme l'acte initial du mouvement de réforme dont avait bien besoin l'Église du XVIe siècle et dont nous sommes donc aujourd'hui les héritiers. Maintenant, la question, qu'est-ce qui caractérise un protestant et quelle est sa marque de fabrique, son signe distinctif? On répondra, c'est le retour à la Bible et la justification par la foi. Et l'on aura raison. Plus largement, la réforme a affirmé l'importance essentielle de six réalités qui ont été formulées en six affirmations, six formules en latin que je vais reprendre avec vous, bien sûr en français. Ce sont « à Dieu seul la gloire », « rien n'est sacré, divin ou absolu en dehors de Dieu », ont affirmé les réformateurs qui ont été vigilants envers toute autorité, tout pouvoir ou idéologie qui pouvait prétendre revêtir un caractère absolu. Et pour eux, c'est parce que Dieu est un Dieu de liberté qui appelle à une libre réponse de la part de l'être humain qu'ils ont été favorables à un système social qui respecte la pluralité et la liberté des consciences. Et puis, la grâce seule. Les réformateurs, en effet, ont affirmé haut et fort que la valeur d'une personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son mérite, ni de son statut social, mais de l'amour gratuit de Dieu qui accorde à chaque être humain un prix inestimable. L'homme, l'être humain, n'a donc pas à mériter ou à gagner son salut en essayant de plaire à Dieu, puisque Dieu lui fait grâce sans condition. C'est cet amour gratuit de Dieu, la grâce, qui rend l'homme apte à son tour à aimer ses semblables, et cela gratuitement. Et puis, troisième affirmation fondamentale, l'essentiel, c'est la foi. La foi qui naît de la rencontre personnelle avec Dieu. Et cette rencontre peut surgir brusquement dans la vie d'une personne, ou bien résulter d'un long cheminement parsemé parfois de doutes et d'interrogations. Mais peu importe, disent les réformateurs, l'essentiel, c'est que la foi est offerte par Dieu, sans condition, et que tout être humain est appelé à la recevoir dans la liberté. Elle est donc la réponse humaine à la déclaration d'amour faite à tous par Dieu, dans la parole biblique en Jésus-Christ. Et puis, il y a cette affirmation, la Bible seule. La Bible qui est beaucoup plus qu'un vieux bouquin, bien sûr, puisque les chrétiens protestants ne reconnaissent que la seule autorité de la Bible qui peut nourrir leur foi. Pour eux, elle est la référence dernière, ultime, en matière théologique, éthique et communautaire. Et c'est donc au travers de ces différents textes et témoignages humains inspirés de l'Esprit que la Bible est en ce sens la parole de Dieu. Et puis, ce mot d'ordre sur lequel les réformateurs ont aussi insisté, il s'agit de se réformer sans cesse. Les réformateurs nous permettent de comprendre que l'Église de Jésus-Christ, quelles que soient nos étiquettes, rassemblent dans une même foi, une même espérance et un même amour tous ceux qui confessent explicitement, personnellement, le Dieu de Jésus-Christ comme celui qui donne sens à leur vie et à qui ils appartiennent. Nos institutions d'Église sont bien entendu des réalités humaines. Elles peuvent se tromper, disait Luther. En référence à l'Évangile, les Églises doivent donc sans cesse porter un regard critique sur leur propre fonctionnement. Chacun doit y prendre sa part de responsabilité et devenir un témoin fidèle de l'Évangile. Et puis, dernière affirmation, la sixième, c'est ce que les réformateurs ont appelé le sacerdoce universel des croyants. Dans les églises nées de la Réforme, chaque baptisé a une valeur et une place identiques. Pasteur, diacre et laïc se partagent le gouvernement de la communauté. Les pasteurs n'ont donc pas de statut à part dans l'Église. Ils n'y exercent en somme qu'une fonction particulière pour laquelle ils ont été formés théologiquement. Or, je veux insister ici sur le fait que la Réforme n'a pas été seulement un bouleversement théologique, mais bien plus encore. Car si Luther et Calvin, par exemple, ont bien été des grands théologiens de notre Occident chrétien, de véritables docteurs de l'Église, comme on dit, ils ont d'abord été des chrétiens engagés qui ont fait eux-mêmes l'expérience de la présence et de la puissance du Christ ressuscité. D'ailleurs, Luther aimait à le dire, je cite, « Seule l'expérience fait le chrétien et le théologien. » Paul l'a expliqué aux Galates et Luther fait lui-même l'expérience que la présence du Seigneur peut transformer complètement nos vies. Ce n'est donc pas de la théorie ou une doctrine, mais une réalité de tous les jours. Écoutez Paul, « Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, » déclare-t-il en Galates 2:20, « mais c'est Christ qui vit en moi. La vie humaine qui est la mienne, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Fondée sur la Bible, la vie chrétienne, c'est une expérience et pas une doctrine. Car en parlant de la justification par la foi seule, Luther n'a pas souhaité défendre un système théologique. Non, ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est justement d'abord cette expérience qui était la sienne et qu'il a su ensuite interpréter à la lumière de l'Écriture pour en faire un principe de vie. Une expérience de vie, parfois tissée, c'est vrai, d'angoisse, de joie et de colère, de doute et de questions. Or, le texte de l'Évangile que nous avons lu tout à l'heure en Marc 9 pose justement une question redoutable sur la foi. Car l'importance de ce récit, ce n'est pas simplement le miracle de la guérison de l'enfant, mais c'est la confession de foi, l'affirmation de la foi du père de l'enfant, qui est comme ce qui va rendre possible la guérison. C'est parce qu'il croit en Jésus que le père de l'enfant peut, ou plutôt que son fils peut guérir. Mais du coup, bien sûr, nous nous retrouvons face à une question qui est au fond celle des disciples. Pourquoi demandent-ils à Jésus? Pourquoi eux n'ont-ils pas pu? Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à guérir l'enfant? Leur question, bien sûr, nous concerne tous. Et puis, qu'est-ce que cela implique concrètement pour nous? Et suffit-il de croire pour que tous guérissent? Ces questions sont légitimes. Et si les disciples de Jésus se les sont posées, c'est qu'il est évident que la foi ne peut exister sans que nous ne réalisions parfois et en même temps que nous avons de la peine à croire. Parce que croire ne va pas de soi. Et pour nous aussi, comme le père de l'enfant qui s'adresse à Jésus, nous nous surprenons à lui dire « Si tu peux quelque chose, Seigneur, interviens, viens à notre secours. » Bref, notre foi, comme celle des disciples, reste souvent mêlée à un manque de confiance, mêlée de résistance et de défiance à le laisser agir dans notre vie et dans nos choix. Et nous avons tous plus ou moins de peine à lui faire entièrement confiance. Et c'est exactement ce que ce Père dit à Jésus. « Je crois, Seigneur, mais aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Oui, mes amis, le cheminement de la foi est parfois difficile et peut être semé d'embûches du fait même de notre nature humaine qui traîne toujours avec elle la tentation du pouvoir et la volonté de nous appuyer sur autre chose que sur la foi seulement. L'histoire de l'Église elle-même nous en a fait la triste démonstration. Combien de fois n'a-t-elle pas pactisé avec le pouvoir et les puissants sans tenir compte de ce qui la fondait, à savoir uniquement sa relation à Dieu dans la foi. Et voilà ce que Luther dénonçait en son siècle. La foi qui est toujours susceptible de devenir affaire de pouvoir et de force si elle cède à l'incroyance. Pas seulement au pouvoir politique ou économique, mais aussi à l'illusion de pouvoir vivre par nous-mêmes et convaincus surtout d'avoir raison. Cette illusion qui nous fait croire que, lorsque nous connaissons le bon chemin et la direction de la lumière, nous avons alors la capacité à agir sur nous-mêmes et par nous-mêmes au nom de la foi. Eh bien, Luther l'a rejeté, cette illusion, comme péché, c'est-à-dire comme reniement de Dieu, parce que fondé non en Dieu, mais en nous-mêmes. C'était aussi l'attitude finalement des disciples de Jésus qui se demandaient pourquoi eux, ils ne pouvaient pas, pourquoi ils n'avaient eux pas la puissance d'agir. Oui, pourquoi ne peuvent-ils pas? Eh bien, justement, parce qu'ils pensent à leur capacité, à leur puissance, à leur compétence, à eux, pour accomplir des miracles, et non à ce que Dieu peut pour eux et au travers d'eux. C'est bien là, n'est-ce pas, l'un des risques de la foi, que de penser qu'elle peut nous rendre capables d'accomplir par nous-mêmes notre vie chrétienne dans l'Église et dans ce monde. Eh bien non, disait l'apôtre Paul, après l'avoir appris jour après jour à l'école de l'Esprit. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors certains en ont déduit, à tort bien sûr, que la foi nous rend aptes à rien d'autre qu'à accepter nos limites et notre incapacité à agir efficacement pour les autres, en conséquence de quoi ils se sont réfugiés trop souvent dans la passivité. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Jésus dans notre récit. Ce qu'il dit, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Oui, la foi est bel et bien une puissance. Tout est possible à celui qui croit. La Bible est beaucoup plus qu'un vieux bouquin. Elle est promesse. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, la question des disciples demeure. Comment envisager que la foi qui concerne notre existence dans toute son épaisseur, parfois, ne débouche pas sur un résultat concret? Eh bien, revenons à notre récit de l'évangile de Marc, et alors en particulier à ces mots de Jésus qui dit ceci, « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Ce que Jésus nous indique ici, ce vers quoi il faut nous orienter avec notre question, c'est donc vers la prière, car c'est dans la prière que doit s'exprimer notre foi, notre confiance en Dieu. C'est dans cette humble relation, dans cette humble attitude de foi que Dieu honore, agissant alors avec puissance. Non pas une prière qu'il suffirait de prononcer ou de répéter pour que tout ce que nous demandons advienne aussitôt. Non, il ne suffit pas de prier pour obtenir. Non, il s'agit d'abord de comprendre que la prière dont il est ici question est bel et bien d'abord une attitude devant Dieu, une posture qui, malgré les obstacles, continue de lui faire confiance quoi qu'il arrive. L'humble prière que prononce le père de l'enfant épileptique est pour nous un modèle que nous sommes invités à suivre, quoi que nous puissions vivre et rencontrer. Seigneur, interviens. Par moi-même, je n'arrive pas à te faire confiance. J'ai de la peine à croire. J'ai de la peine à te laisser agir en moi, malade que je suis moi aussi. Mais dis un mot et je serai guéri. Aie pitié de moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à croire et puis à regarder autrement pour recevoir de toi ce que tu veux me donner dans ton amour. Ainsi, ce que Dieu accomplit en nous, par la foi et dans la prière, c'est d'abord un changement d'attitude et aussi un changement de regard, un changement qui porte sur nos critères humains et sur notre vie chrétienne. À commencer par cette idée qui voudrait que pour exister, il nous faut accomplir, agir, prouver, mériter l'amour et l'exaucement de Dieu. Non, la foi, nous dit Jésus, consiste à laisser Dieu agir et à accepter alors, avec une confiance sereine, ce qu'il veut nous donner et faire en nous et au travers de nous. Ce que l'expérience du Père dans ce récit de l'évangile de Marc nous apprend, c'est donc que la foi ne nous demande pas d'abord d'accomplir, mais bien de recevoir. Ce que Jésus veut nous apprendre, ce dont il nous propose de faire l'expérience, qui est celle des réformateurs aussi, c'est de placer devant Dieu notre manque de foi, notre faiblesse, nos manques et nos doutes, et de nous en remettre sans réserve à lui, que la Bible nous fait découvrir comme un Père plein de tendresse et de bonté, qui prend soin de nous. C'est la foi seule qui nous enseigne aussi à voir dans ce que le monde considère comme une faiblesse, une force. C'est elle seule qui nous fait comprendre que ce que le monde perçoit comme une impuissance est en réalité une puissance infinie, celle de la croix, celle de l'amour qui s'abaisse, qui donne et qui se donne. Oui, n'est-ce pas devant la croix, en effet, que notre vision de la puissance, de la force et du pouvoir se retrouve renversée par la générosité, la grâce de ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, communion de vie et d'amour qui se donne, qui se révèle dans la mort et la douleur, dans ce que le monde appelle impuissance et faiblesse. C'est donc, mes amis, en reconnaissant devant Dieu que nous ne pouvons rien par nous-mêmes et que nous ne sommes pas libres par nous-mêmes, que la foi placée en son pardon et en son amour nous rend capables d'être libres, libres d'espérer contre toute espérance, libres d'agir malgré notre inaptitude à agir avec éclat. Ensemble alors, réformés, évangéliques, salutistes, sans oublier les luthériens et beaucoup d'autres encore. Nous nous réclamons de l'Évangile comme d'autres également qui vivent de la grâce et de la présence de Dieu, toute confession chrétienne confondue. Cela dit, évoquer aujourd'hui notre héritage de la réforme devrait donc nous encourager, nous tous chrétiens, à revenir à la Bible beaucoup plus qu'un vieux bouquin, et à nous mettre en prière pour y écouter la voix de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions mieux encore actualiser et concrétiser le témoignage de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Vivre l'Évangile et pour l'Évangile implique obligatoirement d'apprendre à s'aimer les uns les autres, au sens de se manifester mutuellement respect et considération. Et puis aussi, apprendre à se réjouir et à prier ensemble entre frères et sœurs en Jésus-Christ, apprendre à dialoguer et à travailler ensemble. Puisse le Seigneur nous aider à persévérer sur ce chemin avec joie et confiance. En affirmant donc notre attachement à la réforme, nous ne faisons pas œuvre de nostalgie. Mais c'est le choix délibéré de vouloir entrer dans une compréhension renouvelée du cœur de l'Évangile. C'est cette redécouverte fondamentale de la Bible, de la foi et de tout ce que j'ai évoqué qui a changé l'Église il y a plus de 500 ans. Et puis nos cœurs aussi, aujourd'hui, lorsque nous nous ouvrons à la bonne nouvelle de Dieu qui s'approche de nous en Jésus-Christ. Un Dieu, je le répète, qui prend soin de ceux qui lui font confiance pour leur vie de tous les jours. C'est la Bible, l'Écriture seule, qui nous autorise à en témoigner. Et c'est par sa seule puissance à lui que le Seigneur veut nous libérer. Oui, c'est lui seul, par son Saint-Esprit, agissant en nous et au travers de nous, qui nous permet à notre tour d'agir et de servir, malgré nos échecs, nos impuissances, mais en mettant notre confiance en celui qui nous aime. C'est la grâce de Dieu, nous sachant impuissants par nous-mêmes, je le répète, qui nous permet d'espérer, même si le monde tel qu'il va semble nous condamner au désespoir. Et c'est par la foi seulement, cette humble prière que nous adressons à Dieu, qu'il peut agir à travers nous. Alors maintenant, pour terminer, il nous faut convenir d'un dernier élément qu'on doit souligner. En effet, à quoi pourrait servir la foi si elle n'avait aucune conséquence concrète dans notre vie quotidienne, notre façon de penser, notre façon de nous comporter et de vivre nos relations avec les autres? Raison pour laquelle Jésus a tant insisté sur l'urgence, sur la nécessité de mettre en pratique son enseignement. Il attend de nous que nous agissions et notre foi doit impérativement se traduire dans des œuvres, des actions bonnes, et cela bien sûr au service de l'amour. Ce ne sont pas les intentions ou les sentiments qui vont exprimer l'amour, mais les gestes et les actes qui seuls disent ce qui nous habite. Dès lors, la question que lui, le Seigneur, nous pose, c'est « Et toi, comment vis-tu concrètement la foi chrétienne ? Et puis comment, en te laissant conduire par l'Esprit du Christ, te comportes-tu au quotidien ?» Mes amis, la voilà cette expérience dont Luther a témoigné et pour laquelle il s'était donc engagé avec courage et détermination. Une expérience qui a fait de lui et qui fait de nous, non pas des luthériens, des réformés, des évangéliques ou des salutistes, mais bien des chrétiens. Que le Seigneur nous bénisse et nous renouvelle dans notre engagement de chrétiens à son service. Amen.